Alors pour une émission un petit peu spéciale consacrée au sport auto, plus précisément en rallye et encore plus précisément au rallye de Monte-Carlo. Alors le rallye de Monte-Carlo, tout le monde le connaît. Il est considéré à juste titre, je pense, comme une des trois épreuves les plus connues au monde avec les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans. Cette année, ce sera la 94e édition, qui donnera un parcours de 1 500 km, dont 340 km d'épreuves spéciales. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une épreuve spéciale, eh bien c'est le tronçon de route sur le parcours où la route est fermée, réservée aux concurrents. Les concurrents sont lancés toutes les minutes sur ce tronçon et c'est une épreuve de vitesse pure. C'est à partir de ça que sont faits les classements. Voilà. Alors, pourquoi cette émission? Eh bien, parce qu'il y a un lien direct entre le rallye de Monte-Carlo et notre région, puisqu'on a un équipage capitolien, en l'occurrence David Bérard et Frédéric Lagey, qui vont participer à ce rallye. Alors, ben, je vais demander à David, si tu veux bien te présenter, ça sera parfait, ça m'évitera de le faire.
Donc, bonjour déjà tout le monde. David Bérard, je suis pilote en rallye, donc là sur le rallye Monte-Carlo. C'est ma 25e saison de rallye, donc on ne fait pas partie des plus jeunes. Voilà, après bon, je suis technicien bâtiment pour l'agglomération du Puy. Voilà, après bon, c'est une passion et on a joie de pouvoir participer à ce magnifique rallye. Voilà.
Comment elle t'est venue cette passion? T'as des antécédents dans la famille ou c'est venu comme ça, comme une autre passion?
Alors, pas du tout. Dans ma famille, on n'est pas du tout rallye. Mes parents n'aiment pas forcément le rallye. Ils me suivent quand il y a des épreuves comme ça. Sinon, ils me suivent même pas quand c'est le régional du coin, on va dire.
D'accord.
Voilà. Non, c'est parti pour mes 20 ans. Un pari avec un copain on était à son anniversaire et il m'a dit bah, viens faire copilote, t'es pas capable de faire copilote. Du coup, j'ai dit bah, pourquoi pas, et ça fait 26 ans que ça dure, quoi. 25 ans, et
Donc,
j'attaque la 26e année.
Tu as relevé un défi qui t'a donné le virus, quoi.
Qui m'a donné un gros virus.
Oui, un gros virus, 25 ans, ça fait un bail, c'est sûr. Et au niveau des épreuves, est-ce que tu peux nous donner les épreuves les plus marquantes auxquelles tu as participé? Bon, bien sûr, il y a tous les rallyes régionaux, nationaux de la région, mais là, Monte-Carlo et d'autres épreuves que vous avez faites, que je connais, mais que tu vas nous dire, sortent de ce cas de figure.
Ouais, les premiers rallyes que j'ai fait un peu compliqué et long, ça avait été le Critérium des Cévennes à l'époque, qui était un joli rallye, qui
Ah
était
oui,
très
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 bien.
dur. L'automne sur la feuille, ça remonte à très loin, ça doit être 2006 ou 7, peut-être le premier que j'ai fait. Voilà, et après, ben, on a enchaîné, j'ai eu la chance de pouvoir participer au rallye Monte-Carlo avec un copilote Jean-François Boussy en 2016 de mémoire.
D'accord.
Et après, j'ai eu le bonheur de rencontrer Fred en copilote, et là on a lancé la période un petit peu rallye WRC,
D'accord.
où on a participé au Tour de Corse, au rallye Monte-Carlo, au rallye de Catalogne, et là on se réaligne au Monte-Carlo.
D'accord, je précise simplement pour ceux qui ne connaissent pas que le Critérium des Cévennes comptait et compte toujours pour le championnat de France. Ça veut dire que vous avez fait le choix de participer peut-être moins, mais principalement à des épreuves importantes, parce que c'est pas tout le monde qui participe au rallye que tu as cité. Je rappelle simplement que le rallye de Catalogne, le Tour de Corse et le rallye de Monte-Carlo comptent pour le championnat du monde VRC, que tout le monde connaît, là où l'UB et Ogier se sont distingués. Donc votre choix, ça a été moins d'épreuves, mais des épreuves plus importantes.
Oui, tout à fait. Au début que j'ai couru, c'était beaucoup d'épreuves et on essayait, parce que c'était un peu la foule de la jeunesse, on voulait rouler beaucoup, on avait envie, on faisait du régional. J'avais eu la chance de faire la finale des rallyes à Nantes. J'avais été qualifié avec Armand Dessalles à l'époque en copilote.
Je crois que tu as été qualifié deux fois pour la finale, il me
Oui,
semble.
après, on avait été en
Ouais.
Corse, mais c'était avec Gérard Delorme, là, on avait fait la
D'accord.
finale en Corse.
D'accord.
Et du coup, après, ben, la vie de famille a fait qu'on a moins le temps de faire beaucoup d'épreuves. Du coup, on a préféré bah, vendre la voiture et louer occasionnellement sur des beaux rallyes et se faire plaisir sur des belles épreuves.
C'est bien, je précise que pour se qualifier à la finale des rallyes, eh bien, il faut accumuler un certain nombre de bons résultats, puisque de mémoire, il y a, ou à l'époque, il y avait 16 équipages seulement par ligue qui étaient qualifiés pour la finale des rallyes. Donc déjà, il faut gagner sa classe souvent. Voilà. Bon, on va passer à Fred, que tu as cité. Alors Fred, si tu veux bien te présenter, ça sera parfait.
Alors, bonjour à tous et toutes. C'est Frédéric Lager, le copilote de David. J'ai commencé mes premières rallyes grâce à toi Bernard et à ton frère Jean-Yves en 93.
Oui, donc, oui,
David,
exact.
David n'était pas né, presque. En copilote. Vous m'avez bercé par les voitures de rallye depuis mon plus jeune âge. Et ouais. Puis, voilà, ça, on en a fait jusque dans les années 95. Après les études, on fait que j'ai tout arrêté. Et puis, en rencontrant David, il n'y a pas très longtemps, on en a reparlé. Et on a remis mes fesses dans le baquet. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Donc, et ça a été ça devait être en 2018 qu'on a recommencé à courir au rallye d'Oliergues, si mes souvenirs sont bons, quoi. Donc voilà.
Ah oui, je me rappelle, avec une Clio R3 de location.
De location,
ouais.
Voilà.
Ouais, ouais. J'étais présent ce jour-là.
C'est ça. Ouais. Et puis après, comme vous m'aviez mis dans le baquet tout petit, j'ai dit le jour où j'aurai une voiture, même une petite, et on en refera, mais on inversera les rôles. Et Bernard, tu passeras à côté de moi, et on a réalisé ce rêve au rallye de la Fourme, il n'y a pas si longtemps que ça.
Et, c'était en 2023, et c'était exactement 29 ans après que j'ai fait mon dernier rallye. Et là, quand j'ai fait mon dernier rallye, Fred, c'était son premier rallye en coéquipier, et on a inversé les rôles en 2023.
Voilà.
Où moi, c'était après 29 ans, ça a été mon premier rallye en coéquipier.
Et moi, mon premier rallye en pilote.
Voilà. Ah non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà. Et ça te fait combien de saisons ou combien de rallyes en tout, à peu près? Tu as une idée?
C'est difficile. Pas difficile. Une quinzaine, quoi. 20 rallyes peut-être.
Ouais. D'accord.
Bah, plutôt en copilote, hein, grâce à David, hein, parce que grâce à lui, je peux toucher du doigt d'être à côté d'un bon pilote, d'avoir des bonnes voitures aussi, que je ne serais pas capable de conduire. Et voilà, quoi. Donc, je peux que le remercier là-dessus.
Très bien. Alors, après l'équipage, on va passer à la voiture. Qui va nous présenter la voiture?
Bon, mais je vais y coller. Du coup, on va participer au Monte Carlo avec une 208 Rally 4, qui n'est pas la plus petite voiture du plateau. C'est la 2 roues motrices qui est plutôt pas mal. On n'est pas sur de la 4 roues motrices, la grosse voiture du WRC. C'est une voiture qui a un moteur 1200 turbo qui fait 212 chevaux. Il y a une boîte séquentielle 5 rapports SADEV. Avec un super châssis, c'est pas, on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup de chevaux, mais c'est une voiture très très efficace par rapport à sa tenue de route. Et c'est les châssis modernes, c'est une voiture qui a été construite par Peugeot Sport, donc qui est bien montée, qui est récente et qui a tout pour se faire plaisir et faire des résultats. C'est difficile de dire ça, mais c'est une voiture efficace. Voilà. Après, bien conduite, c'est une voiture qui peut aller très très vite. Ce qui n'est pas forcément le cas avec moi, on n'ira pas très 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 vite, mais voilà.
Pas très très, mais vite, ça c'est sûr, vous connais assez pour savoir, ça c'est clair. Donc c'est une vraie voiture de course, gens qui peuvent se dire avec 212 chevaux, c'est pas terrible par rapport à moi, ma voiture de série qui en fait 280 ou 300, mais, et là c'est intéressant de le préciser, il ne faut pas comparer une voiture de course avec suspension, freinage, boîte, etc. Spécifique, à une voiture de série qui est faite pour durer dans le temps et qui sera de toute façon beaucoup moins performante. J'avais oublié les pneus de course aussi, bien sûr. Donc même si 212 chevaux, ça paraît pas extraordinaire, effectivement, je pense que vous êtes dans les voitures les moins puissantes. C'est pas tout à fait la même situation qu'il y a quelques années quand vous l'aviez fait avec la Twingo, parce que là, vous étiez la voiture la plus petite, ça c'était clair et net. Et je rappelle au passage qu'ils avaient terminé 52e, ce qui était une performance parce que c'était la voiture la plus petite et il n'y avait pas 52 partants au départ. Je ne sais pas combien il y en avait, une centaine.
Je me souviens plus.
Une centaine, je crois, à l'époque. Voilà, bon, la voiture, maintenant on la connaît un peu mieux. On va voir un petit peu comment vous vous êtes ou comment vous vous organisez. Comment ça se prépare à Monte Carlo? J'imagine 5-6 mois, un an à l'avance. J'aimerais avoir une chronologie un petit peu de tout ça.
C'est moi qui me colle,
je compléterai.
Voilà. Ouais, mais c'est un travail bien. Hein. C'est un travail un peu de longue haleine. Donc on remercie d'ailleurs nos familles parce que ça prend quand même du temps sur le temps de tous les jours. Et du coup, ça fait bien 6 mois surtout qu'on peaufine tant les choses administratives à faire au niveau de la FIA, des inscriptions. Des normes à avoir sur certains équipements pour nous dans la voiture, tout un tas de paperasserie. La recherche des sponsors qui, grâce à eux, ça nous permet de faire notre rêve. Et sans eux, on ne pourrait absolument pas participer à ce type d'épreuve. Mm-hmm. Donc, encore une fois, grand merci à eux. Donc, pareil, ça prend du temps, on présente le projet. C'est que des sponsors locaux, donc ça c'était important pour nous aussi de faire vivre des gens du coin et de représenter aussi tant le département que des gens d'ici,
Alors ça c'est les 6 mois de préparation, voilà. On va dire administrative, logistique, ça commence à être la logistique, enfin je sais pas. Donc on va commencer par les reconnaissances aussi, puisque vous allez bientôt faire les reconnaissances. Alors j'explique simplement en quoi consistent les reconnaissances. Ça consiste à parcourir les tronçons chronométrés, les épreuves spéciales, afin de prendre, de noter tous les virages, pour avoir une idée de comment ils tournent, s'ils se referment, etc. Mais vous allez nous expliquer justement un petit peu quel système de notes vous utilisez.
Alors du coup là c'est un peu je l'ai un peu imposé à Fred, on va dire, parce que j'ai toujours roulé avec ce type de notes depuis mes tout débuts. Ouais. En fait moi je note au degré de virage et en plus le rapport de boîte. Donc pour résumer, c'est un virage droite par exemple 93, c'est un virage qui tourne à 90 degrés et que je passe en troisième. Ouais. Voilà. Après ça évolue, 124, 125, enfin voilà, il y a plusieurs choses. Mmh. C'est un peu ma méthode de prise de notes. Sur un rallye Monte Carlo, c'est très très compliqué parce que les conditions météorologiques font que les notes sont prises difficiles à prendre. Et là où c'est vraiment plus compliqué, c'est que sur une manche du WRC, du mondial, on n'a que le droit à 2 passages. Donc c'est des spéciales qu'on connaît pas, faut être honnête. Donc on fait une passage de prise de notes, un passage pour vérifier, et puis le jour de la course on y va, on se lance comme ça. Donc il faut être assez rigoureux dans la prise de notes, il faut être assez précis. Dans la voiture il faut très bien s'entendre, bien se connaître, parce que c'est compliqué des fois. Moi je vais un peu vite aussi, parce que quand il y a des virages qui s'enchaînent les uns derrière les autres, Fred il lève pas la tête pendant 3-4 km des fois, donc faut qu'il me fasse confiance, faut qu'il arrive à prendre des repères en même temps. C'est un très gros travail pour le copilote. En plus, il y a les recopier, les remettre au propre les soirs et tout. Il a beaucoup, beaucoup de travail. Bon, à la limite, une fois que j'ai fait mon passage, j'ai dit le premier coup. Après, il m'annonce, on fait de la correction, mais j'ai pas le plus mauvais rôle. Fred a vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Je pense qu'on se rend des fois pas compte, mais on va être sur une journée de reconnaissance. On va rouler de 6h30 du matin, le temps d'aller à la spéciale. On va finir à 19h. Moi je rentre à l'hôtel, je vais prendre ma douche, je vais manger un petit peu. Fred il a 2 heures, 3 heures de correction de notes et de modification de notes, donc il se couchera pas avant minuit, une heure du matin. Voilà, donc il a beaucoup beaucoup de travail. C'est quelque chose de très précis, très difficile à prendre, en sachant qu'on a quand même des ouvreurs, bon peut-être qu'on en parlera après, qui vont vérifier, qui vont passer pour nous noter des choses, mais c'est un gros gros travail. On va faire ça pendant 3 jours. C'est les 3 jours presque les plus fatigants du rallye.
Je confirme que c'est un gros travail, parce que pour avoir vécu le rôle de coéquipier très, très récemment, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Fred justement, à un niveau bien moindre, moi j'ai trouvé que ça faisait déjà du travail. Non, c'est vrai, il faut être précis.
Et ça n'est pas trop vite.
Non, c'est vrai qu'une fois on a utilisé tes notes, David, et quand Fred m'a dit que tu n'avais fait qu'un passage, j'avoue que j'étais un peu, j'étais surpris de la qualité des notes que tu pouvais déterminer en un seul passage. Moi, quand je roulais, je me rappelle, dans les années 80, il fallait que je passe 5 fois au moins pour être un petit peu satisfait et d'avoir des notes un petit peu de qualité, quoi. Et là, j'ai été surpris de la qualité. Et puis je reviens sur la partie travail de Fred. Effectivement, bah, tu l'as bien résumé, hein. C'est un travail d'équipe, mais le pilote s'en tire mieux peut-être.
Ouais. Sur ce point-là, oui.
Sur ce point-là, sur ce point-là. Ouais. Et puis on va parler du tracker. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le tracker, alors, ça consiste en quoi et ça sert à quoi?
Alors, initialement, dès les reconnaissances, on doit l'avoir dans la voiture, parce qu'on est normé, donc c'est comme un mouchard, initialement, qui nous suit, qui doit être toujours allumé, et comme ça, l'organisation du rallye voit exactement où on passe. On n'a le droit qu'à deux passages. Il est absolument formellement interdit de faire marche arrière sur la spéciale ou de reculer. Donc, et surtout, on doit absolument respecter les limitations de vitesse de tous les jours, c'est-à-dire c'est 30 ou 50 dans les villages, 80 maximum sur la route, pour pas qu'il y ait de dérive et que les gens reconnaissent n'importe comment. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait les reconnaissances, cet outil va partir dans la voiture des ouvreurs. Les ouvreurs sont les deux pilotes qui vont, le jour de la course, une fois lancé, auront le droit de partir bien avant le départ de la course, alors à 3-4 heures du matin, pour aller juste vérifier, faire un seul passage sur les spéciales pour voir l'état de la route compte tenu des changements climatiques qu'il peut y avoir. Donc ils font des corrections de notes sur des endroits qui seraient devenus très dangereux avec beaucoup de glace ou des énormes chutes de neige, ce qui changerait nos notes le jour J du passage. Et parallèlement, nous, on aura un tracker dans la voiture de rallye, qui est un autre appareil, et qui est très bien, et qui est pareil, qui a une espèce de méga GPS comme celui d'avant, mais qui en plus donne des informations au PC course, où il y a des boutons spécifiques en cas de problème. Si nous on a un accident, on peut déclencher les secours. Ils savent exactement où la voiture est arrêtée, et si toutefois on est témoin de la voiture précédente qui a un accident, on doit signaler l'incident, dire s'il y a besoin de secours, si la voiture gêne sur le passage. Voilà, on doit réduire notre vitesse. Il y a des témoins qui s'allument. Si c'est en rouge, on doit absolument tout arrêter. Et ça nous permet. Ça permet à l'organisation, nous on va, les pilotes et copilotes vont dire exactement l'endroit exact où est l'accident pour que les secours arrivent beaucoup plus vite. C'est un gage de sécurité pour tous les pilotes et copilotes veillent les uns sur les autres en plus de l'organisation, et qui est une bonne chose.
Ah ben, très bien, excellente chose. Petite anecdote que vous avez vécue la dernière fois que vous avez fait le rallye de Monte Carlo, j'en reviens au tracker. Vous vous étiez arrêté pendant les reconnaissances parce qu'une dame était dans le fossé, je crois, avait mis sa voiture dans le fossé. Oui. Et vous vous étiez arrêté, je crois que vous avez fait une marche arrière pour venir la secourir. Et à l'arrivée, vous avez été convoqué par la direction du rallye pour expliquer le pourquoi de cette marche arrière.
Oui, parce que comme on n'a absolument pas le droit, on aurait été hors rallye. Voir avec une amende, et en fait on a expliqué qu'on ne voyait pas ne pas porter secours à cette dame qui avait rien à faire là, mais qui était là, et en fait on était plutôt félicités. Là c'était cas exceptionnel où on pouvait se permettre, où les ouvreurs pouvaient se permettre de faire marche arrière. C'était les ouvreurs qui avaient fait ça, parce que c'était pendant l'ouverture du rallye.
Ah oui, pardon.
C'était pas nous exactement, c'est les ouvreurs qui avaient fait la chose, et c'était très bien, mais il a fallu prouver qu'il y avait eu l'intervention des pompiers, que le colonel de gendarmerie qui était sur place a bien vu que c'était eux qui avaient donné l'alerte. C'est très 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 sévère sinon.
Très organisation, très très rigoureuse, ça c'est clair.
Ah oui, et puis on a été convoqué au PC du rallye Monte Carlo. Ouais,
à Monaco, à l'Automobile Club, avec tous les dirigeants de la FIA, de la Fédération Internationale. Donc là, ça allait très très vite, parce que c'est des personnes qui parlent très couramment l'anglais, parlent anglais. Oui. On a même eu besoin d'un traducteur à un moment, parce que c'était technique et on n'avait plus les mots pour arriver à expliquer le justificatif
de pourquoi
ils avaient fait marche arrière. Après, ils ont porté secours à une dame qui avait eu un accident, et à la fin, on a été félicités. Ils ont dit, vous remerciez vos ouvreurs d'avoir porté secours. Mais on aurait pu être hors course à ce moment-là. Il a fallu vraiment justifier la raison du pourquoi.
Bon, on voit que, comme je disais, il y a une grande rigueur dans l'organisation. Je reviens sur le rôle des ouvreurs. Quand on sait que le rallye de Monte Carlo est un des plus difficiles de par la diversité des revêtements, parce que vous pouvez rouler sur la neige, dure, sur la neige damée, de la glace, du verglas, de l'humidité, des choses comme ça. Donc les ouvreurs notent les différences qu'ils ont repérées par rapport à vos notes. Et au fait, comment ils vous les transmettent, les corrections, enfin les notes corrigées?
On a des zones spécifiques qui sont notées dans le roadbook, où il y a des échanges de notes.
Ah d'accord.
Chaque jour, on a 2 points notes, pas plus.
Très bien.
Donc à ce moment-là, il faut qu'ils arrivent à être sur le parcours à ce moment-là.
Ouais.
Et donc ça dure quelques secondes, mais où ils ont le temps de nous dire, donc il faut être bien réglé pour savoir que telle page, c'est telle ligne, ainsi de suite, pour dire attention, à cet endroit, c'est dangereux, et voilà, ça va très très vite. Donc, mais c'est, là aussi, c'est normé, ils ont droit qu'à un passage, et l'échange de notes se fait que sur des points spécifiques qui sont contrôlés, avec des horaires bien spécifiques et un temps imparti limité.
Donc ça veut dire que, comme dans tous les rallyes, à partir du moment où on prend le départ, que ce soit les concurrents ou les ouvreurs, on garde toujours un œil sur la montre. Quoi.
Ah, tout le temps.
Tout le temps, tout le temps,
tout le temps. C'est usant, mais c'est tout le temps.
Ouais. Non, mais c'est vrai.
Ouais, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos, en fait.
J'ai vu un peu de rôle de coéquipier que j'ai tenu. Il faut tout le temps regarder l'heure, quoi, puisqu'on pointe régulièrement à des heures définies d'avance, selon l'horaire du rallye. Et puis là, pour la situation des ouvreurs, je ne savais pas ça du tout. Ouais. D'accord.
Après, c'est quelque chose, je me permets, qui est très compliqué. C'est la... Le moment de la journée est presque le plus important. Parce que si on n'a pas les corrections de notes, on ne sait pas les plaques de verglas, on ne sait pas. Et là, on a un doute. Donc, puis il y a risque d'accident. Enfin, soyons clairs. Nous, on est passé une semaine avance. Peut-être que la route était très, très sèche. Quand on a reconnu, quand on arrive le jour du rallye, toutes les conditions météorologiques que tu as dit tout à l'heure, elles peuvent être dans la même spéciale, en fait. On peut avoir de la neige, du sec, du verglas. Enfin, voilà. Donc, c'est un rôle très, très important où faut. Je pense qu'on ne le prend pas à la légère. C'est des personnes très sérieuses qui sont en ouvreur, qui ont l'habitude, qui nous l'ont déjà fait au Monte Carlo. Et puis, il faut leur faire vraiment une confiance à 200%, parce que ça joue avec leur travail.
Vous avez combien d'ouvreurs là, pour le rallye?
Là, on a deux. On a juste une voiture ouvreuse. Donc on
une
a
seule un, voiture
ouais, un pilote et un copilote qui passent avant nous. Donc juste pour dire, l'ouvreur qui conduit, c'est Nicolas Guénard, quelqu'un de Saint-Jean-Chapteuil, qui avait roulé, qui était concurrent, qui connaît bien le rallye. On lui fait confiance, vraiment bien confiance, qui est très sérieux. Il a déjà fait pour nous, donc en plus c'est bien. Et en copilote, c'est Jean-Pierre Marie qui m'avait copiloté pendant plusieurs années. Donc il connaît bien mon principe de notes, il sait comment je fonctionne aussi en tant que pilote, il sait ce que j'aime aussi dans les notes. Donc ça permet d'être assez précis. Et le dernier Monte Carlo qu'on a fait, on avait signalé à la fin du rallye, ils ont fait 0 heure. Voilà, donc
ça,
c'était un travail parfait.
Ça ne doit pas être facile. Ouais. Ça doit pas être facile. Donc ça confirme que le rallye est une vraie compétition d'équipe.
Oui.
Pilote, copilote, les ouvreurs, et on va passer à l'assistance maintenant également, qui joue un rôle important. Au niveau assistance, comment ça se passe pour vous?
Donc là, on est parti sur... Une société qui de location, parce que bon, il faut des voitures très très récentes déjà, on ne peut pas faire avec n'importe quelle voiture. Là, de coup, on a deux personnes qui sont dédiées à la voiture en tant que mécano, qui gèrent tout ce qui est voiture mécanique, tout, qui s'occupent de tout, nous, on ne gère rien. Parce que déjà, c'est des moments où à l'assistance, nous, c'est nos moments de repos.
C'est le seul moment.
Voilà. Donc voilà, du coup, c'est vrai que la société A2B Auto gère tout ça. Nous, on arrive, on leur dit, voilà, il y a ça sur la voiture. Après, ils gèrent tout de A à Z. Nous, on est juste là pour conduire. On discute toujours pour des améliorations, des réglages et des choses comme ça. Mais voilà, et on a une personne aussi après qui fait partie de leur team parce qu'il y a une autre voiture qui est louée dans cette structure. Je ne sais plus le nom de l'équipage, qui est de Gap d'ailleurs, qui est du coin. Et du coup, eux, pareil, on a une personne qui est commune, qui fait partie de l'assistance, qui gère la relation avec la FIA, les concurrents, tout ça.
Pour
les deux voitures. Parce qu'il faut qu'on ait quelqu'un au parc fermé pour communiquer en cas de problème avec,
durant le rallye.
Avec l'organisation en permanence. Il faut qu'elle soit là 24 heures sur 24, disponible pour le moins de petits soucis.
Voilà, à l'assistance, et il parle anglais.
Voilà, et qui parle anglais couramment, parce que c'est tout, voilà, on est tout, il y a un peu, alors maintenant l'anglais est devenu la langue, mais bon, on est obligé on communique en anglais sur la totalité avec l'organisation, c'est quasiment que de l'anglais.
Alors vous allez avoir un petit problème parce que dans votre groupe de rallye 4, vous êtes 10, donc 7 équipages italiens. Donc il va falloir se mettre au stage italien.
On va se mettre à l'italien.
7 équipages italiens, 3 français dont vous. Et au niveau des voitures, ben deux sortes de voitures, les Peugeot 208 Rallye 4, comme celle que vous avez, et Lancia Y, qu'on ne connaît pas en France. Je pense qu'on les voit pratiquement jamais en France. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Vous connaissez certains des équipages dans votre groupe, non?
Non. Ah non, pas du tout. Non, vraiment, après, je ne cache pas que ouais, les Italiens, on ne connaît pas trop le championnat italien. Français, après, je vais être honnête, je ne regarde pas bien les listes d'engagés. Je me mets pas la pression pour voir qui y a. J'y vais, on roule, on voit ce que ça donne. Et puis voilà, c'est vrai que c'est pas... Après, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on est sur un rallye qui est un mondial. Je crois qu'il y a 9 pays représentés sur la totalité, 9 nationalités ou un truc comme ça. Enfin, on est dans ces eaux-là. Donc, c'est quand même un rallye qui est connu. Enfin, c'est un vrai mondial quand il y a du monde. Donc, c'est intéressant. Puis, ça permet de. On arrive toujours à communiquer. De toute façon, c'est intéressant.
C'est intéressant parce que ça permet de discuter avec des gens autres que ceux que vous rencontrez d'habitude si tu roulais une saison complète en France, quoi. Bon, ben c'est très bien. Moi, je vais vous souhaiter une bonne réussite dans ce rallye. Faites-nous honneur. Non, je ne fais pas de soucis, parce que jusque-là, ça a toujours été le cas. Donc, voilà. En sachant que vous faites partie des amateurs au pur sens du terme, parce que j'imagine que quand on regarde la liste des engagés, bon, c'est difficile de connaître tout le monde, mais il y a déjà les voitures d'usine, avec Ogier pour Toyota, Neuville pour Hyundai, Fourneau pour Hyundai également, pour les Français. Et puis, on voit des gens, j'ai remarqué des gens qui font le Monte-Carlo depuis 20 ans. J'ai remarqué, par exemple, les Irlandais, là, et tous avec des voitures, celles qui gagnent les rallyes en VRC2, etc. Donc, je pense qu'au niveau des amateurs, déjà, c'est bien d'être accepté, parce qu'il y a un tri fort qui est fait. Sur 66 concurrents, il faut déjà être accepté, vous l'avez été, donc bravo pour ça. Et puis bonne chance pour le rallye, et merci de cet entretien. Et je précise à nos auditeurs qu'il y aura un suivi au soir de chaque journée. C'est ça ?
Bien.
Et merci. Donc les journées, on va les préciser. Donc c'est le jeudi, vous roulez à partir de jeudi 22, c'est ça ?
Oui.
Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25.
Voilà.
Donc je ne sais pas lequel des deux, je pense que c'est Fred qui va bosser encore une fois.
Oui, je peux. Toujours les mêmes.
toujours les mêmes. Et donc je ne sais pas à quelle heure ça sera diffusé, on va voir avec Jean-Pierre. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour ces 4 journées de rallye sur Radio Craponne. Voilà.
Merci à vous.
Merci à vous. Bon.